L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 8h45, ce mardi 6 août 1985. Dans quelques minutes, deux équipages de rafting vont lancer leur embarcation et suivre le cours du fleuve Zaïre. En plein milieu du Congo, ce géant des eaux est au cœur de l'expédition lancée par un journaliste connu de tous. C'est une superstar, Philippe de Dieuleveux. Mais cette journée, qui démarrait pourtant sous les meilleurs auspices, va tourner au cauchemar. Les deux équipages disparaissent subitement, peu après 9h du matin. Ils sont alors au contact des chutes d'Inga. 9h, leur âge de mon histoire. Ce matin-là, dès 6h30, de Dieuleveux et ses compagnons se sont réveillés de bonne humeur, prêts à attaquer cette journée ensoleillée du bon pied. Leur objectif est de continuer leur descente en aval du Zaïre et ses 50 000 mètres cubes par seconde de débit. Un monstrueux adversaire, deuxième au monde en termes de puissance, derrière l'indétrônable Amazon. En buvant son café, somme toute assez proche d'un jus de chaussette, de Dieuleveux grimace. Il plonge ses pensées dans le courant. L'homme de 34 ans est un aventurier dans l'âme. Journaliste, maintes fois élu personnalité préférée des Français, sa réputation n'est plus à faire. Il anime depuis 1981 une émission qui cartonne sur Antenne 2, La Chasse au Trésor. Le principe ? Deux équipes, une bleue et une rouge, qui doivent décoder de mystérieuses énigmes sur un terrain de jeu de plusieurs centaines de kilomètres à chaque fois. Et pour cela, les joueurs sont aidés par des hélicoptères aux couleurs de leur équipe. Chaque semaine, les téléspectateurs voyagent en France, mais aussi dans le monde entier. C'est à chaque fois un carton plein. Ancien cadreur, pigiste, reporter, il est passé par tous les métiers avant d'entrer dans la lumière médiatique après laquelle il ne court pas. Le sang qui coule dans ses veines est celui de l'aventure. Voilà pourquoi, de temps à autre, pour se couper du monde, parfois si anxiogène des médias, il organise avec ses amis des excursions comme celle-ci. L'an dernier, de Dieuleveux, passionné de musique, a également enregistré un single. Oui, une idée de son agent, et ses amis le charrient de temps à autre avec ça. C'est encore le cas ce matin, lorsque, pour le saluer, François Laurenceau fredonne l'air de sa chanson. Ce dernier, ainsi que Jean-Louis Amblard, viennent lui signifier qu'ils abandonnent. L'objectif du jour, la traversée des chutes d'Inga, c'est de la pure folie. Les habitants de la région les ont prévenus à leur arrivée. Elles sont réputées infranchissables. Déjà, quand de Dieuleveux leur a annoncé son intention de les passer en rafting, tous s'étaient montrés pour le moins surpris, pessimistes, inquiets. Tout ça ne leur dit rien qui vaille. François et Jean-Louis préfèrent tous deux renoncer à cette épreuve et retrouver les autres un peu plus loin. La vie est un bien précieux, même pour ceux qui ont le cœur bien accroché. Tant peu importe, pense le présentateur télé. Ils sont encore suffisamment nombreux pour réussir cette traversée à la difficulté bien plus fantasmée qu'il n'y paraît. Il a étudié les cartes, il connaît les voies de passage. L'expédition Africa Raft ira à son terme. Il dispose de deux bateaux pneumatiques, géants dans leur catégorie, le Françoise et le Gottlieb. Le navire amiral, le premier cité, c'est le sien. Cette région, il la connaît bien. Et si c'est la première fois qu'il tente le coup en rafting, il a déjà bien crapahuté sur la zone en rando. En terminant son café, il peste gentiment contre ceux qui resteront à l'arrière. Tant pis après tout, les absents ont toujours tort. Quelques minutes plus tard, un autre membre de l'expédition, Guy Collette, charge le Françoise avec les sacs et les provisions. Au loin, il remarque que leur chef d'équipe observe le courant. Brun, grand, charismatique, le regard perçant. Philippe de Dieuleveux est issu d'une famille anoblie à la chute de Napoléon. Originaire de Bretagne, le présentateur a l'âme de ceux qui mènent les troupes. Le brave Guy, donc, lui fait totalement confiance, malgré les réticences qu'il partage avec ceux qui ont décidé de rester sur la rive. De Dieuleveux lui a promis des paysages comme il n'en a jamais vu. Et le risque en vaut la chandelle, non ? Ce pays, c'est une mine d'or, au sens propre, comme au figuré. Guy n'a jamais rien vu de tel. La région dans laquelle il se trouve, depuis la veille, dépasse l'entendement dans sa beauté et sa splendeur. En aval de Kinshasa et en amont de Matadi, les chutes d'Inga trônent sur le fleuve. Elles sont si dangereuses qu'à la fin du XIXe siècle, il fut nécessaire de construire une voie de chemin de fer pour les traverser. Les trains qui y passent ne sont pas nombreux. Et pas non plus de première jeunesse, il faut le dire. Mais il vaut mieux être inconfortablement assis dans un wagon des années 50 plutôt que de tenter la traversée en bateau, un peu moins risqué pour le dire poliment. Perdu dans les méandres de son esprit, Guy termine le chargement de la Françoise à une vitesse digne des meilleurs dockers. Des dieux le veut, satisfait, tapote l'épaule de son ami et l'aide à porter les derniers sacs. Il est vêtu, comme à son habitude, de son inséparable pull noir et d'un gilet de sauvetage. Puis vient le temps des au revoir, rapide, succinct. Tout le monde s'attend à se retrouver le soir même ou le lendemain, ou du moins à se tenir informé via les talkie-walkie dont chacun dispose. Les deux navires sont également équipés d'un émetteur. Tout est donc sécurisé le plus possible. L'eau est dangereuse, mais pas autant que le climat politique de ce pays aux braises ardentes. Les compagnons ont donc pris leurs précautions. Aucune de leurs tenues ne peut être mal interprétée. Les bateaux sont de couleurs vives et bien visibles. La prudence est de mise. En effet, l'armée du Zaïre est sur les dents en ce moment. Des bandes armées dissidentes parcourent la jungle environnante et souhaitent purement et simplement les éliminer. Mais l'équipage ne perçoit pas de mouvement à l'horizon, pas de coup de feu, rien qui laisserait présager un climat de tension lors de leur départ. Bientôt, les navires s'éloignent, salués de la main par Jean-Louis et François restés sur le bord et rigolant de l'allure de Philippe de Dieuleveux, droit comme un i, tel surcouf au milieu de l'Atlantique. Alors que leurs amis sont bien en place et commencent à prendre l'allure du courant, eux s'apprêtent à remonter la piste à pied. Ils sont heureux de voir les sept membres restants de l'équipage s'amuser de cette manière. Deux sont avec le chef de l'expédition, les quatre autres dans l'autre bateau. Ils l'ignorent encore, mais ils ne se reverront jamais. Les deux hommes restés sur la berge ne tardent pas non plus à se mettre en route. Ils vont rejoindre le barrage d'Inga, une des premières étapes que doivent franchir les embarcations déjà aspirées par le courant plus au loin. Le bivouac se trouve sur l'île aux hippopotames. Ils ont donc quelques heures de marche devant eux. La progression est tantôt rapide, tantôt difficile. Transpirant dans la chaleur de plomb qui les engourdit, les deux hommes finissent par arriver tout près des chutes d'Inga magnifiques et immenses. Là se dresse le barrage, vaisseau dans un paysage encore abandonné à la puissance de la nature. Mais les deux randonneurs sont inquiets. Depuis 9 heures, soit seulement un petit quart d'heure après leur départ, les deux navires ont cessé d'émettre. Plus aucune communication, ni via le capteur, ni via le canal Toki dédié. Bon, peut-être ont-ils été bloqués au niveau du barrage, ou alors... Non, aucun des deux ne se résout à envisager un accident, non. Ce serait de fait une catastrophe dans cette zone. Pourtant, Philippe de Dieuleveux leur a bien dit qu'il les contacterait via une des radios, mais rien. Leur arrivée sur les lieux ne passe pas inaperçue. Deux soldats de l'armée zaïroise ne tardent pas à les arrêter juste avant l'ouvrage, alors qu'ils traversent un petit village. Il est un peu avant 14 heures. Le bruit des flots est assourdissant et empêche chacun de pouvoir communiquer correctement. Les deux amis, effrayés par la fureur des eaux, inquiets à l'idée de ne voir aucune trace du passage des aventuriers, se regardent avec des yeux qui ne trompent pas. Si les bateaux ont chaviré, impossible que quelqu'un ait pu survivre. Mais pour le moment, rien ne leur indique une potentielle catastrophe. C'est le comportement de ces militaires qui les intrigue en premier lieu. Confus, de bonne composition certes, mais ils ont l'air penauds. L'un d'eux finit par s'exclamer sans que personne ne leur ait rien demandé. « S'il est arrivé quelque chose à vos amis, c'est pas de notre faute !» Les deux hommes, stupéfaits, ne comprennent pas l'intérêt d'un tel avertissement qui résonne dans l'air comme un coup de semonce. En plus, ils n'ont pas dit aux soldats qu'ils étaient inquiets, simplement qu'ils suivaient l'expédition à pied. « Drôle d'histoire, se disent-ils, alors qu'on leur annonce l'arrivée d'un gradé des forces armées. » Les deux compagnons de Philippe de Dieuleveux, toujours sans nouvelles depuis le départ des sept autres, réclament l'ouverture de recherches, mais stupeur. On les emmène plus au loin pour un interrogatoire, à l'ombre. Sont-ils maintenant considérés comme de dangereux criminels? L'étau, en tous les cas, se resserre. On les conduit dans un hôtel miteux de Matadi, en aval de la position du barrage, et on ne leur fournit aucune réponse. Persuadés que les autorités cherchent à gagner du temps et qu'ils n'ont pas été informés de leur venue, les amis se rongent les sangs. Si De Dieuleveux est passé au barrage, il aurait prévenu les soldats en poste que deux traînards à pied allaient suivre. Tout ceci manque cruellement de sens. Ce huis clos dans cet hôtel n'aboutit toujours pas à l'ouverture d'une enquête de la part des autorités du Zaïre. Au bout de trois jours, rien, nada. Ce n'est qu'à ce moment-là que, poussé dans ses retranchements, l'officier en charge des deux hommes se résout à prévenir les forces spéciales françaises. Il y a en effet un détachement de parachutistes à Kinshasa. Ces hommes chevronnés arrivent rapidement sur place. Ils fouillent autour du barrage dans l'espoir d'y trouver un début d'explication. Ils sont commandés par l'adjudant-chef Ramos, qui, d'emblée, est furieux. L'armée zaïroise est tout bonnement de mauvaise volonté et refuse de coopérer. Pire, il ne donne aucun signe permettant de mettre fin aux suspicions à leur sujet. Excédé, révolté par tant d'incompétence, l'adjudant-chef fait un rapport à son supérieur, un colonel se trouvant en France. Il le ponctue de ces mots. « Je crois qu'ils nous les ont tués, mon colonel. » Toujours calfeutrés dans leur chambre d'hôtel, qui n'en a que le nom, les deux rescapés de l'expédition commencent à penser que rester à terre fut en effet une bonne idée. L'inquiétude les a quittés, laissant place à une résignation teintée de colère quant au sort de leurs camarades. On finit par les autoriser à se rendre, eux aussi, au barrage. Bien que fatigués par les jours qu'ils viennent de vivre, ils sont subjugués par la beauté de ce mélange entre main humaine et pureté sauvage. Le vacarme des eaux, assourdissant, leur fait frémir l'échine de haut en bas, les poils hérissés sur leurs bras. Cette puissance est dévastatrice, tueuse. Perdus dans leurs pensées, ils sont interpellés par un ingénieur civil qui fait des relevés un peu plus loin. Tous ont été informés de leur venue, et leur profil est assez rare dans la région pour qu'on puisse immédiatement les identifier. Stupeur et espoir de la part des rescapés, lorsque l'ingénieur leur annonce avoir vu, occupés autour d'un navire échoué, trois hommes blancs. Et vous voulez connaître la meilleure? Il a vu le nom du navire, le Françoise, et il affirme qu'un des aventuriers présents autour de la coque portait un pull noir. « C'est Philippe !» s'exclame son ami d'enfance, François Laurenceau. Et en effet, dans les heures qui suivent, le navire de Philippe de Dieuleveux est retrouvé en bord de berge quasi intact. Seule la caméra vidéo installée sur le petit mât de fortune a été arrachée. Tout ça est particulièrement bizarre, d'autant qu'on n'a aucune trace des trois occupants du premier navire et surtout aucune piste concernant le deuxième bateau. De retour dans leur hôtel, les deux amis sont emmenés dans la pièce qui a servi de lieu d'interrogatoire les jours précédents. Sur la table en inox gris se trouvent deux feuilles déjà complétées. Seule la case « signature » est vide. Sans un mot, l'officier en charge de leur garde leur tend chacun un stylo. Ils parcourent le document et, avec horreur, ils découvrent qu'il s'agit d'une décharge dans laquelle on leur demande de confirmer ne pas avoir entendu de coup de feu le 6 août 1985, jour de la disparition. Leur conviction est maintenant faite. Les sept aventuriers ont été tués par l'armée du Zaïre. Alors que la piste de la bavure gagne en épaisseur dans la presse et dans l'opinion, on finit par retrouver le deuxième navire le lundi suivant la disparition. Disloqué totalement dans l'eau, on dirait qu'il est tombé et s'est fracassé contre les rochers. Du côté des autorités françaises, il s'agit de minimiser la théorie selon laquelle l'armée alliée du Zaïre a pu jouer un quelconque rôle dans l'affaire. Tout doucement, c'est la théorie de la noyade qui s'impose. Alors, inconscient, trop téméraire, Philippe de Dieuleveux, certainement, si on en croit la théorie officielle défendue dès lors par les autorités des deux pays concernés. Le consul local de France, auteur d'une mauvaise blague et qu'il n'a sans doute pas cherché à faire, ordonne qu'on procède à un silence radio sur toute cette affaire. La thèse accidentelle, cependant, ne va pas convaincre grand monde dans le cercle des proches des victimes. Encore moins après le retour en France des deux rescapés qui ramènent avec eux leurs doutes et leurs constatations. La famille de Philippe de Dieuleveux en particulier se mobilise. Seuls, face à l'immensité de ce silence étatique au cœur de la République, ils vont tout faire afin de faire entendre leur voix et leurs convictions premières. On a assassiné Philippe de Dieuleveux et ses six compagnons.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de Philippe de Dieuleveux et de six de ses compagnons. L'homme de télé, célèbre et tant apprécié des Français, part en rafting au cœur du Zaïre. Alors que deux des aventuriers sont restés sur la berge par peur des rapides, les deux bateaux de l'équipe disparaissent. Plus aucune trace des passagers. Mais que s'est-il passé ? Accident, assassinat, bavure militaire, les pistes sont nombreuses et la thèse officielle de la noyade ne convainc personne. L'affaire, elle, sensible depuis plus de 37 ans, est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Partons donc du principe, suivant les éléments récoltés jusque-là, que les membres d'équipage ne se sont pas noyés. Alors que s'est-il passé ? Et surtout, est-ce possible d'imaginer que la cause de la mort soit autre qu'accidentelle ? Eh bien, nous allons tenter de rassembler des éléments de réponse. En premier lieu, la piste de la bavure est privilégiée par la famille des disparus. Et ce même si les relations diplomatiques, surtout entre la France et les pays africains, sont des sujets que le Quai d'Orsay manie avec des pincettes. La gêne des militaires zaïrois est tout de même très intrigante. La 31e brigade de parachutistes du pays est encadrée, tenez-vous bien, par des officiers français. Ce sont eux qui définissent alors le discours officiel. Les deux survivants isolés, mis à l'abri, signent des papiers en tout genre et sont longtemps interrogés. Cela peut signifier on souhaite bien s'assurer qu'ils ne sont au courant de rien avant de les relâcher. Serait-ce parce que l'armée a quelque chose à se reprocher ? En tout cas, tout laisse penser que les deux amis se trouvent en 1985 sur les lieux d'un drame. Insoluble, mais tout de même bien présent. Revenons un instant, si vous le voulez bien, sur le premier témoignage de l'ingénieur présent sur le barrage. Vous vous souvenez ? Celui qui dit avoir vu des hommes blancs s'affairer autour du Françoise, dont un avec un pull noir. Le seul qui en avait un parmi tous les membres d'équipage, Philippe de Dieuleveux. Eh bien, figurez-vous que les semaines et les mois passant, ce témoignage spontané va se transformer considérablement. Bientôt, avec recul et prudence, l'ingénieur va remettre en doute le cœur de ses propos, à savoir qu'il hésite sur la couleur de peau de ceux qu'il a vus. Des blancs, des noirs, il saurait le dire. Tiens donc, il n'est pas le seul à aller dans ces directions. Bientôt, d'autres témoins modifient leurs propos. Des techniciens du barrage se rétractent. Un officier zaïrois disparaît mystérieusement après avoir révélé avoir vu des choses. Eh bien, tout ceci est pour le moins troublant. Des télégrammes diplomatiques émis peu de temps après les événements évoquent le témoignage de trois pêcheurs locaux. Ils auraient vu des hommes blancs, non seulement tourner autour du bateau, mais, encore mieux, mettre pied à terre et s'éloigner sur la rive. Sur l'un de ces documents, le nom de Philippe de Dieuleveux apparaît nommément. Un bateau est donc retrouvé et localisé. L'autre, cependant, contenant quatre personnes, manque à l'appel. Une carcasse est ensuite découverte, fracassée par les flots, en contrebas des chutes. On manque radicalement de témoignages au sujet de ce navire. Mais il semblerait bien, à la vue des constatations, que l'eau est bien responsable de ce naufrage et donc, par extension, de la mort de ses occupants. Un seul des quatre corps sera retrouvé, celui de Guy Colette, vous vous souvenez, l'homme qui charge les bateaux mieux que les meilleurs dockers. Sa dépouille est découverte sans aucune trace de blessure par balle. Nous sommes le 14 août 1985. Une bonne semaine s'est écoulée depuis la disparition et les recherches, elles, continuent. De Paris arrivent certains des organisateurs de l'expédition qui se posent en hélicoptère près du barrage. Ils sont alors tout près des restes du navire le plus endommagé. C'est là qu'ils apprennent de la part du pilote de l'hélico que la veille du passage des bateaux, l'armée locale était en état d'alerte. Pour le prouver, il avance qu'un couvre-feu a été imposé. Est-il possible donc que le lendemain, alors que la pression est au maximum et alors que les rafts passent dans la zone, l'armée les ait confondus avec des assaillants potentiels? La réalité semble un peu plus complexe, selon le pilote d'hélicoptère. Écoutons-le. Ils auraient été repérés par les soldats et un détachement aurait été envoyé pour récupérer les membres présents sur le Françoise, dont Philippe de Dieuleveux. Une fois le pied à terre, ils auraient tous été abattus. Par méprise donc, sans nul doute. Les nouveaux arrivants sont surpris par le manque d'assurance du lieutenant de l'armée locale en charge de la surveillance du barrage. Des années plus tard, à la brigade criminelle de Paris, ils rapporteront qu'ils transpiraient de peur à chaque question. Ils repartent, persuadés que la bavure a bien eu lieu. Un autre ingénieur américain, cette fois, est bientôt interrogé par le FBI. En poste depuis un peu moins d'un mois sur les lieux afin d'aider les Aérois avec leurs nouvelles installations et équipements, il est beaucoup plus formel. Selon lui, trois camions militaires ont pris la route de service du barrage le 6 août. Les soldats en sont descendus et se sont mis en position de tir. Mais craignant pour sa vie, il a gardé le silence, de peur de représailles. Du moins, le temps de sa mission. Ces révélations sont déjà explosives, mais le FBI, comme souvent, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Averti qu'un pilote d'hélicoptère américain est l'un des premiers à avoir survolé les lieux à basse altitude, ils interrogent cet homme à l'aube du nouveau millénaire. Nous sommes déjà 15 ans après les faits. Cet homme avoue avoir aperçu les débris d'un raft à deux endroits du fleuve et avoir également découvert à l'intérieur d'un conteneur des cartes de visite de Philippe de Dieuleveux. Pour continuer avec les révélations, il dit aussi avoir vu deux tas de douilles, une petite dizaine d'un côté, plus de 20 de l'autre côté. Il va même plus loin en évoquant le fait qu'elles étaient neuves, du moins récemment utilisées. Impossible alors de confondre ces douilles avec d'autres qui auraient pu être employées les mois précédents. Lorsqu'on lui demande s'il en est sûr, il maintient sa version, assure que des douilles plus usées auraient été reconnaissables. Il parle de calibre 30, celle de fusil d'assaut. Mais ni le RAID, ni les militaires français ayant fouillé la zone se souviennent d'avoir trouvé des douilles. Troublant, là encore. Mystère sur mystère. Ces dépositions sont explosives et peuvent même être, si on parvient à les confirmer, capitales. Ce pilote d'hélicoptère n'est pas un amateur. Vétéran du Vietnam, il connaît les munitions et leur état après utilisation. Même chose pour l'ingénieur civil américain qui a évoqué l'arrivée de ces militaires. En état d'alerte maximale, le barrage est ce jour-là contraint d'être évacué. Mais lui, alors qu'il voit passer un raft, se saisit de son appareil et prend des photos de l'embarcation. Délirant, vous allez me dire. Et surtout, où sont ces clichés? Eh bien, il les aurait remis à l'épouse de Philippe de Dieuleveux. Voilà de quoi relancer une enquête embourbée dans les approximations et les non-dits. Le bateau sur les images serait-il celui retrouvé en morceaux un peu plus en aval, qui aurait été victime des caprices des eaux, tandis que celui du présentateur TV était pris d'assaut? Il semblerait que ce soit le Françoise, au contraire, celui de Philippe de Dieuleveux. Mais alors, que s'est-il passé? Nous commençons doucement à pouvoir deviner l'inimaginable. Cette disparition ne serait pas un accident. En effet, ces témoignages sont particulièrement gênants, voire catastrophiques, pour corroborer la thèse officielle de la noyade. Comment expliquer de manière rationnelle l'arrivée des camions militaires, si ce sont les rapides, les fauteurs de troubles? Il faut dire que le barrage en question et des plus stratégiques, une zone sensible à part entière dans le pays. Il alimente à lui tout seul le Bazaïre en électricité. Un coup d'arrêt, une prise de contrôle par des dissidents et c'est toute une partie du pays qui s'écroule. La pression autour du site est donc considérable et le climat propice aux coups d'éclat et aux actions mal réfléchies. De plus, si la thèse de l'accident est bel et bien maintenue du côté de la diplomatie des deux pays, un nombre anormal de télégrammes diplomatiques est échangé entre le Zaïre et la France. Certains d'entre eux laissent sous-entendre qu'une surveillance aurait été mise en place le long du fleuve dès la veille de la disparition des navires et que l'expédition aurait pu être confondue avec un commando ennemi. Ces télégrammes datent de 6 jours après le drame. Il vous manque encore une preuve ? La voici. Une cassette audio où le responsable de la police d'Inga, juste à côté du barrage, mentionne que les membres du deuxième navire, dont Guy Colette, auraient pu sauter à l'eau par peur. Mais par peur de quoi ? Des flots ? Du courant ? Aucun intérêt ! C'était la mort assurée ! Le tir de fusil d'assaut, là, cela semble déjà beaucoup plus cohérent. Une autre variante de cette théorie est celle selon laquelle de Dieu le veut et ses deux compagnons auraient été faits prisonniers par l'armée et que l'opération était prévue depuis déjà plusieurs jours. Une fois interrogés par les services secrets du Zaïre, les 3 hommes auraient été exécutés et leurs corps volatilisés. Mais pourquoi ? Pourquoi diable un présentateur de la télévision publique française, chanteur à 16 heures perdues, aurait-il été la cible des services secrets zaïrois ? Eh bien, j'ai oublié de vous révéler un petit détail. Philippe de Dieuleveux, journaliste apprécié par ses pairs, était aussi un officier de réserve de la DGSE. Elle ne vous dit rien, cette structure ? La Direction Générale de la Sécurité Extérieure, ou si vous préférez, les services d'espionnage de la France à l'international.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H d'une disparition des plus mystérieuses. Celle d'un journaliste connu, une véritable star, Philippe de Dieuleveux, et de 6 de ses compagnons. Une expédition de rafting montée de Paris pour descendre le fleuve Zaïre tourne mal et les 2 bateaux du projet disparaissent. La thèse officielle, défendue par les États concernés, est celle de la noyade et donc de l'accident. Mais les familles qui s'y opposent depuis 37 ans, défendent la piste de la bavure militaire. De nombreux éléments mis au jour permettent d'orienter de nouvelles investigations en ce sens. Mais pourquoi le journaliste aurait-il été la cible de l'armée du Zaïre ? Certains font le lien entre l'affiliation de Philippe de Dieuleveux à la DGSE, les services secrets français dont il était officier de réserve, et sa disparition. Mais cette piste est-elle crédible ? Élément de réponse. Longtemps hors de son cercle familial, cette information est restée secrète. C'est tout à fait normal. Les services de renseignement sont des organes où la discrétion règne en maître. C'est le frère de Philippe, Jean, qui le premier révèle l'information en 1994. C'est ensuite confirmé par son fils et bientôt, cela devient un secret de polichinelle. Gradé, il était capitaine et a reçu régulièrement des convocations à des stages d'entraînement. C'est le cas en 1978 et 1979. Il se forme cette année-là aux techniques de guerre en zone rurale, à guérilla si vous préférez, et sa hiérarchie lui adresse même des félicitations. Rapidement, la DGSE se trouve obligée de répondre à ces rumeurs. Son patron atteste que Philippe de Dieuleveux n'a jamais été envoyé en mission officielle et que sa situation était comparable à celle de tout réserviste dans l'armée. Il n'était donc pas en service actif. Moins que l'on puisse dire, c'est que cette affaire est floue. De nombreux tenants et aboutissants la composent. Est-ce donc possible que Philippe de Dieuleveux ait été victime d'un rapt impliquant également ses amis sur la seule base de son appartenance aux renseignements généraux ? Nul besoin d'être en mission dans ce cas-là, les soupçons l'emportent. C'est du moins l'une des théories qui existent à ce sujet. Un livre publié en 1994 et intitulé « J'ai vu mourir Philippe de Dieuleveux », un ex-officier des services de renseignement du Zaïre, pousse en ce sens. Je dois néanmoins vous informer que la théorie développée ci-après est basée sur le témoignage d'un seul homme et que donc, elle peut être sujette à caution. Les autorités du pays auraient eu la preuve que le journaliste était proche du régime libyen, à l'époque l'ennemi du Zaïre. Le passage du barrage n'est alors qu'une opportunité pour l'armée de prendre en otage les membres d'équipage du Françoise. Pour les quatre autres, il est nécessaire de les faire disparaître aussi. C'est simple. On leur tire dessus, ils tentent de s'échapper, tombent à l'eau et le navire s'écrase en contrebas. Pour Philippe de Dieuleveux et ses deux compagnons, c'est un autre destin qui les attend alors. L'auteur, officier des renseignements réfugiés en Belgique et aujourd'hui décédé, soutient que les trois hommes auraient été emmenés dans des cachots, et ce, afin de subir plusieurs interrogatoires, pour le moins musclés. Après que ces séances de questions n'aient rien donné, le journaliste et ses compagnons auraient été exécutés devant un peloton la nuit du 9 août 1985 au sein d'un camp militaire reculé. Après ces révélations, la famille s'active et fait rouvrir une enquête. La police judiciaire de Paris lance une instruction et recueille les témoignages d'une vingtaine de militaires français en poste dans la zone de l'incident au moment des faits. Rapidement, elle clôt le dossier en affirmant que la thèse ne tient pas et revient à la théorie de la noyade la plus plausible, à 99% selon elle. Pour les proches, c'est le retour à la case départ. Mais alors qu'on pensait cette piste définitivement fermée, une enquête journalistique, « Les crocodiles du Zaïre » est publiée en 2008 dans la revue 21. La journaliste, au cœur des investigations, Anna Mikkel, est formelle. Elle a retrouvé un rapport d'interrogatoire qui prouve que Philippe de Dieuleveux était vivant après le 6 août. Mieux, il se serait trouvé le 8, soit deux jours plus tard, à Kinshasa, où il a été interrogé par un officier proche du président Mobutu. Ce document, non authentifié, mais selon elle, officiel, porte l'entête de la DSP, le groupement chargé de la protection du président. Au bas de la feuille, deux signatures, celle de l'officier en question, mais aussi, tenez-vous bien, celle de Philippe de Dieuleveux. C'est une véritable bombe et un pavé dans la mare. La signature est formellement reconnue par le frère du journaliste qui saisit aussitôt le procureur de la République et dépose plainte dans la foulée. Il accuse en effet l'État français d'avoir dissimulé la vérité. Mais là encore, la brigade criminelle prend tout le monde de court. Le document serait un faux où la signature du prévenu aurait été scannée puis rehaussée à l'encre. Le soufflet redescend une nouvelle fois et laisse tous les intervenants pantois. Personne dans l'entourage des victimes ne croit à la thèse accidentelle, tant les éléments qui vont contre la théorie officielle sont nombreux. Comme seule réponse, on classe une nouvelle fois l'enquête. Pourtant, la journaliste apporte sur un plateau une autre preuve. Un télégramme reçu le 4 août à Kinshasa qui stipule que la bande d'Africa Raft est accusée d'être composée de mercenaires voulant déstabiliser le pouvoir en place. On prévoyait même leur arrestation et leur renvoi dans un camp militaire, celui de Tchatchi, pour y être interrogé. Mais là encore, rien ne bouge. Pour la France, pour le Zaïre. Philippe de Dieuleveux et les siens sont morts au fond des eaux, inconscients du danger et de la rapidité du courant. Pour autant, les preuves, elles, s'accumulent. Les investigations aussi. La dernière enquête menée d'une main de maître par le neveu du journaliste ne peut permettre aux autorités de garder les yeux fermés plus longtemps. Les témoignages sont là, les aveux parfois aussi. Des photos inédites, le dépouillement aux archives des Telex envoyés entre les deux pays, anormalement nombreux, tous les éléments vont aujourd'hui dans le même sens. Une bavure militaire est à l'origine de la mort de Philippe de Dieuleveux et de six de ses amis. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec l'une des citations de cet homme au destin aussi fulgurant qu'aventureux. Auteur d'un ouvrage « J'ai du ciel bleu dans mon passeport », Philippe de Dieuleveux écrit ceci. « Dans mon duvet, face aux étoiles, je réfléchissais sans pouvoir dormir. Cette nuit-là, je décidais pour toujours de vivre à ma guise, à ma manière, de faire tout ce dont j'avais envie, sans tenir compte de la vie des autres. Car finalement, ils ne peuvent et ne pourront jamais être à ma place tout au long de ma vie. Non, je n'étais pas fou. Je n'étais pas illuminé. J'avais envie de vivre. Ce besoin impérieux d'aventure, de découverte et de défi aura poussé Philippe de Dieuleveux dans les bras du destin. L'horreur de cette tragédie et la mort au cœur des rapides africains ne doivent pas faire oublier la priorité qui devrait assaillir les autorités et tous ceux impliqués dans cette affaire. Le besoin impérieux de connaître enfin la vérité. Voici donc pour ce récit palpitant que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.